Salut, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga et une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, de l'inspiration et des conseils de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Si tu souhaites recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com. Mon invitée d'aujourd'hui est une aventurière et une exploratrice qui a traversé l'Atlantique à la voile, un projet que je m'apprête également à réaliser, vous le savez peut-être. Louise Océane, qui porte bien son prénom, est une jeune femme passionnée par l'océan, une passion commune qui nous a rassemblés autour de moments comme l'apnée, le surf et de discussions engagées et pertinentes autour de la spiritualité, de la loi de l'attraction et de manifester ses rêves. Après un atelier que j'avais mené en ligne pendant le premier confinement, sur la loi de l'attraction, Louise Océane a créé un tableau de visualisation et aujourd'hui, vous verrez qu'elle vit pleinement dedans. Dans cet épisode, Louise Océane parle de son histoire et de comment elle a manifesté son projet, une expédition de régénération des milieux marins. Comment être ancré et connecté à soi, même lorsqu'on est en voyage ou lorsqu'on est nomade. Ce que lui apporte la mobilité douce et le voyage à la voile. Elle nous parle de sa vie de digital nomad, ayant étudié la biologie marine et avec toutes ses aventures et ses expériences, Louise Océane nous explique comment diminuer notre impact négatif sur l'océan. Elle met en lumière l'importance de nourrir son écologie intérieure et d'être en connexion avec la nature. Elle parle également d'une association qui s'appelle Women for Sea, qui organise un événement en Corse, mi-mai, événement que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux via le compte de Louise Océane, de Women for Sea, mais aussi de Victoria Guillaumont et de Lucie Francini. J'ai tellement à cœur de vous présenter Louise Océane, qui est une jeune femme inspirante, mature pour son âge et que je considère comme une réelle amie et presque une petite sœur de cœur. Vraiment. Belle écoute à vous et moi je vous retrouve à la fin de l'épisode. Louise Océane, re-bienvenue sur le podcast. Nous avons dû faire une intervention parce que tu es dans ta cabine au Mexique et que le son n'est pas très bon. J'espère que cette fois ce sera la bonne. So, welcome again, girl. Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va. Merci. Merci pour ta patience et j'espère que cette fois-ci ça va marcher.
Donc, tu te trouves dans ta cabine de bateau au nord du Mexique. Est-ce que la Louise Océane d'il y a 3 ans aurait imaginé qu'elle serait ici aujourd'hui?
Non, non. Bien sûr que non. Et on ne peut jamais imaginer là où on sera dans un an, dans 2 ans. Donc, non. Mais je pense qu'elle aurait été contente.
Et raconte-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à traverser l'Atlantique à la voile et à faire cette grande aventure?
Du coup, pour commencer un petit peu avec le commencement, je suis une grande, grande amoureuse de l'océan. Voilà, tu le sais, par rapport aux activités qu'on a en commun, mais je fais voilà, du surf, de l'apnée, de la nage, maintenant de la voile. Et donc, j'ai toujours passé beaucoup de temps près de l'eau. Mais la voile, je m'y suis mise plutôt tard. En fait, je suis partie en Angleterre, dans le sud-ouest de l'Angleterre, pour faire mes études en biologie marine et écologie côtière. Et en fait, bah, le sud-ouest de l'Angleterre, c'est un peu la Bretagne, quoi. Donc, y a beaucoup de voiliers, il y a beaucoup de monde avec des bateaux, etc. Et donc, moi, je me suis fait pas mal d'amis qui avaient un petit peu d'expérience, qui avaient des bateaux, etc. Donc, c'est un peu là que j'ai commencé à m'y mettre. Et puis surtout, c'est après une année de stage à l'étranger où, en fait, quand je suis rentrée, c'était un peu la question de qu'est-ce que je vais faire après ma dernière année d'études. Et plutôt que de vouloir faire un peu le parcours classique du master, PhD, enfin, doctorat, Enfin, c'était un peu, j'ai plus envie de partir à l'aventure et de partir un peu explorer le monde. Et en même temps, bah, j'étais hyper inspirée par des expéditions comme Lords of the Ocean, Le Nomade des Mers, Under the Pole, enfin voilà, des expéditions à la voile française qui, on va dire, qui allient l'aventure avec une cause qui m'est chère, qui est la protection de l'océan et du vivant. Et du coup, c'était un peu bah, comment je peux faire ça? Et à ce moment-là, un sujet qui m'intéressait beaucoup, c'était la régénération des écosystèmes marins. Et donc, c'était de savoir comment je peux réussir à monter une expédition pour aller à la rencontre en fait, de projets qui font de la restauration de coraux, de mangroves, etc., d'autres écosystèmes marins, et un peu aller à leur rencontre et de les aider et de les documenter, etc. C'était un peu mon envie folle quand je suis revenue et que j'étais à la fin de mes études. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Pascal, qui était en fait en train de monter une expédition un peu comme ça. Donc, bon, voilà, on va dire que la vie fait très bien les choses quand on a une envie et qu'on sait que c'est un peu notre chemin. Bah, je pense que les portes et les rencontres, enfin, les portes s'ouvrent et les rencontres se font pour que cette idée et cette envie se réalisent. Et pour le coup, ça a été un peu le cas avec la rencontre avec Pascal, qui avait un bateau et qui avait envie en fait d'aller jusqu'à San Diego, en Californie, et d'aller rencontrer des projets de régénération d'écosystèmes marins. Et moi, j'avais pas de bateau et lui, il avait pas de background scientifique, etc. Et donc, l'idée, c'était un peu de s'allier. On a monté cette expédition ensemble et on est parti du coup en février 2022 depuis la Bretagne. On a été jusqu'en Californie. Et donc oui, ça a fait traverser de l'Atlantique et remonter d'une grosse partie de l'Amérique centrale à la voile, du coup sur un petit 36 pieds, donc c'est 11 mètres de long. Et donc ouais, ça a été toute une expédition à la voile assez incroyable. Et puis quand je suis arrivée en Californie en juin, bah, l'idée c'était de rester un peu dans le coin. Donc je suis allée au Mexique et j'avais pas encore envie de rentrer en Europe. Et j'avais envie d'attendre en fait la prochaine saison pour faire la traversée du Pacifique, qui est à peu près de janvier à mai. Et donc là, bah voilà, je suis en plein dans la saison et je pars dans 2 semaines. J'ai trouvé un autre bateau pour faire la traversée du Pacifique direction la Polynésie française.
Moi, je me souviens qu'on se soit retrouvés à Biarritz et que tu me dises, mais Anouk, il s'est passé un truc de fou, j'ai trop besoin de te dire. Et tu sais, tu écoutes le podcast, enfin, on est assez proches, donc tu vois aussi un petit peu mon univers. Moi, j'aime bien parler de tout ce qui est loi de l'attraction, manifestation. Et je me souviens que tu m'as dit, mais j'ai fait ce tableau de visualisation. Où je me vois être sur un voilier, puis je nage avec les baleines et tout ça. Enfin, et quelques temps après, au final, ça s'est réalisé. Donc, comment est-ce que tu as fait pour manifester tout ça, en fait? Est-ce que tu peux nous parler de ce processus-là?
Ouais, bah, tu vois, ça me met les larmes aux yeux d'en parler parce que, en effet, je te l'ai déjà partagé. Et pour moi, ça a été un moment très, très, très fort. C'est-à-dire que, en fait, le jour où déjà j'ai eu cette idée de vouloir faire un peu une expédition sur la régénération des écosystèmes marins, c'était un peu en pleine nuit, j'avais un peu une insomnie, etc. Et j'ai eu cette idée. Et c'est le genre d'idée qui te prend, tu vois, qui à l'intérieur, c'est. T'as l'impression qu'il faut que tu le réalises. Enfin, c'est quelque chose de très fort. Et en fait, bah déjà, j'ai commencé à dire un peu à tout le monde que j'allais faire ça. Sans savoir naviguer, sans avoir de bateau, sans avoir aucune idée de comment j'allais faire le projet. Mais c'était un peu l'idée. Et en fait, au début, je me suis dit, bah, je vais juste commencer par une traversée de l'Atlantique, un peu comme toi, tu vas faire avec Lucie, tu vois, de rejoindre un bateau, etc. Et en fait, un jour, enfin, bien sûr, j'ai commencé à poser des questions sur comment on peut trouver des équipiers. Enfin, voilà, j'ai été très proactive aussi dans ce projet-là et comment je pouvais le réaliser. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai écouté ton super épisode sur. Mais c'était avant ton podcast encore. Tu avais fait une vidéo sur Instagram sur la loi de la manifestation. Et j'avais fait, du coup, un tableau de visualisation avec des photos des écosystèmes marins que je voulais aller voir, de voiliers. J'avais fait une carte du monde avec le trajet dessiné. Et en effet, j'avais mis des baleines à bosse parce que je pensais aller jusqu'à Tahiti, tu vois. Et voilà, et j'avais fait un peu et je l'avais mis en fond d'écran de mon ordi. Comme ça, je le voyais tous les jours. Et c'était en mode, bah voilà, à la fin de l'année, je pars pour une expédition et je vais faire ça. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que bah, 2 semaines après, j'ai eu l'appel avec Pascal, qui est du coup le capitaine de l'expédition et du bateau, et qui me disait qu'il était en train de monter une expédition comme ça et qu'il avait besoin et qu'il cherchait quelqu'un à bord, quoi, pour l'aider. Et donc, c'était un peu le. Enfin, genre, c'est magique, tu vois. Tu fais ce tableau, tu te dis que tu vas le faire. Et en 2 semaines, j'avais cet appel qui, pour moi, enfin. Ouais, enfin, c'est. D'une certaine façon, c'est inexplicable, mais. Voilà, c'est quelque chose de très beau.
Ouais, je me souviendrai toujours vraiment de ce moment où tu m'as dit je vais faire cette expédition et on m'a appelé, c'est dingue. Et bon, t'as pas encore vu les baleines à bosse, mais en tout cas, tu te diriges vers Tahiti, donc il y a plutôt pas mal de chances pour que cette scénette soit vécue à un moment donné, du moins je te le souhaite. Et tu vois, dans ce podcast, on va pas forcément parler de ce qui se passe sur le bateau ou comment est-ce qu'on fait la transatlantique, parce que moi je suis très intéressée par le monde intérieur. Et du coup, tu es vraiment beaucoup en mouvement. Enfin, au final, tu as peu de points d'ancrage. Là, tu es vraiment. Voilà, là, tu es au Mexique, mais après, tu pars à Tahiti. Tu es constamment sur soit un bateau, soit tu changes de petite ville. Comment est-ce que tu fais pour prendre soin de ta santé mentale, émotionnelle et trouver un peu ce sentiment d'être bien intérieurement. Est-ce que tu as des petits tips que tu pourrais donner aux gens qui peut-être sont dans ce mouvement aussi?
C'est vrai que bah, ça fait plus d'un an là, que je suis partie, ça fait 14 mois. Et bah oui, du coup, j'ai pas eu de chez moi depuis 14 mois. Enfin, c'est-à-dire, j'ai pas eu de chez moi à l'extérieur. Puisque, en effet, on est toujours chez soi. On peut être chez soi avec soi. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu bouges tout le temps, et encore, c'est là aussi où je mets une nuance, c'est que je suis pas toujours en mouvement dans le sens où je ne bouge pas toutes les semaines. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, où j'ai eu ces voyages un peu en mode backpacking, où tu bouges tous les 2, 3 jours et tu vas d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. Mais je suis plus dans ce mood-là, parce que bah, aussi je travaille et que j'ai besoin aussi de cette mini-stabilité que tu peux te créer dans un endroit, même si c'est pour 1 mois, en fait. Mais du coup, là où. En effet, il y a des trucs que je fais qui font que, enfin, qui m'aident. Moi, déjà, c'est l'écriture. J'ai un journal et j'écris tous les jours. Il y a peut-être des fois où je vais 2, 3 jours sans écrire, sauf que la fois où j'écris après les 2, 3 jours d'absence d'écriture, bah, j'écris pendant 1 heure, 1 heure et demie parce que j'ai pas écrit pendant 3 jours, quoi. Et j'avais commencé ça en voyage, avec un peu cette idée de raconter un peu mon journal de bord et un peu les aventures que je vivais. Et en fait, ça s'est très rapidement développé en un journal où bah, je parle de mes émotions, de comment je me sens, parfois de mes rêves. Enfin voilà, j'écris beaucoup et ça m'aide beaucoup à me calmer, etc. Et à me recentrer, on va dire. Et puis après, bah, dès que je peux, mais c'est pas facile, mais dès que je peux, j'essaye d'avoir une routine, une morning routine, tu vois. Je suis de que ce soit ouais un quart d'heure de méditation, un peu de yoga ou de stretching, de prendre en fait ce temps pour moi où je ne regarde pas mon téléphone. C'est-à-dire que c'est vraiment je me réveille, je prends ce temps pour moi, je suis avec moi, je remercie, je suis dans la gratitude et je vois tout ce qu'il y a autour de moi, etc. Et puis c'est après que je peux prendre mon téléphone, prendre des nouvelles, travailler, etc. Mais ce point d'ancrage le matin, pour moi, il fait la différence.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de mobilité douce? Qu'est-ce que ça t'apporte de pas prendre l'avion et de voyager à la voile?
Ouais, c'est un challenge que je me suis un peu lancé en lien avec mes convictions sur le fait d'essayer en fait de consommer de manière beaucoup plus responsable et donc que ça touche l'alimentation, la mode et du coup aussi le transport parce que bah, pendant des années j'ai pris l'avion hein, j'allais en Angleterre pour faire mes études et j'y allais très souvent en avion. Bon, et puis de plus je me suis aussi bah, renseignée sur la situation et du coup j'ai aussi étudié biologie marine, donc j'ai appris tout ce qui se passe comme menace et comme enjeu sur le milieu marin. Bref, et du coup, pour moi, ça a été très important d'essayer d'incarner le changement que j'essaye aussi de mettre en place d'un point de vue professionnel. Et du coup, c'était qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour limiter mon impact négatif, mon empreinte négative sur la planète. Et bah, après avoir changé plein de choses, je suis aussi arrivée un peu face au mur où bon, l'avion, ça craint, c'est quand même une des industries les plus polluantes. Est-ce que je ne peux pas, moi, individuellement, réduire les vols que je fais, en fait? Et du coup, ben, forcément, en ayant ce lien avec la mer, j'ai direct fait le lien avec la voile et le fait que tu puisses te déplacer uniquement en utilisant le vent, qui est quand même quelque chose d'incroyable. Et quand tu le vis, tu te dis waouh, c'est ouf, je suis en train de traverser la moitié du globe grâce à la force du vent. Bref. Et du coup, bah, c'était un peu ce challenge, on va dire, d'essayer de voir à quel point je pouvais en fait bouger et voyager et atteindre les lieux que j'ai envie d'atteindre, mais de manière tout à fait respectueuse, en essayant du coup bah, de prendre le bateau le plus possible. Donc là, je me suis un peu donné le challenge d'arriver jusqu'à Tahiti à la voile depuis la France. Mais je ne dis pas que je ne reprendrai jamais l'avion parce que je vois aussi les limites. Ça a des limites financières, hein. Je vois au Mexique, par exemple, les distances sont tellement grandes que ça coûte beaucoup moins cher en argent et en temps de prendre l'avion que d'y aller en bus. Donc je vois aussi ces limites-là. Mais c'est aussi, bah, justement, comme tu vois, tu parlais de mobilité douce, de réapprendre à prendre le temps, de réapprendre à pas, en fait, consommer le voyage et juste d'aller à un point A, à un point B en un claquement de doigts. Mais justement que le trajet, the journey, comme on dit en anglais, j'adore ce mot, que the journey, bah, c'est aussi le voyage en lui-même. Et donc, bah voilà, c'est essayer de prendre plutôt les transports en commun, etc. Et la voile quand c'est possible. Mais c'est pas toujours facile, mais on va dire que ça me permet d'être un peu plus aligné avec mes convictions.
Ouais, puis vivre une aventure de folie aussi.
Oui, il y a toute la partie aventure qui est forcément qui est incroyable. Et enfin, c'est une sensation juste incroyable d'être au milieu de l'océan et d'avancer juste avec le vent et tu te sens beaucoup plus, enfin, tu te sens beaucoup plus connecté avec eux et tu sens que tu fais vraiment partie de ce monde-là d'une certaine façon.
Là, aujourd'hui, maintenant, toi, tu es digital nomade, c'est assez fou parce que de mon époque, genre on est juste une demi-génération d'écart, mais c'est vrai que quand je suis partie voyager, par exemple en Nouvelle-Zélande, le télétravail et tout, enfin, c'était très rare les gens qui avaient des jobs en France et qui étaient à l'étranger, tu vois. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait vachement. Comment ça se passe pour toi?
Ouais, bah, alors, en plus, je déteste. Enfin, je déteste. J'aime pas trop ce truc de digital nomade, entre guillemets, je fais avec mes doigts là. Parce que justement, j'ai un peu cette vision de la consommation du voyage et des gens qui vont à Bali, qui vont en Thaïlande et qui tu prends tout le temps l'avion et tu vois genre et j'ai pas enfin pour moi c'est pas le but enfin c'est vrai que mais du coup vu que je suis tout à fait en télétravail et que je bosse sur mon ordi et que je suis au Mexique je suis une digital nomade c'est officiel mais bah c'est chouette en fait je vois le parce que du coup je bosse c'est-à-dire j'ai deux boulots je bosse pour à la fois pour une association et à la fois en freelance et en fait bah c'est génial parce que bah je peux choisir mes horaires je peux être libre et genre je peux aller à la plage en fait le travail devient pas quelque chose enfin je fais pas du 8h 17h 5 fois par enfin 5 jours par semaine je fais mes heures je fais mon boulot mais si je veux faire une pause pour aller à la plage ou si je veux prendre 24 heures dans la semaine pour partir en micro-aventure aller nager dans des cascades, enfin, je peux. Et ça, je trouve que c'est la beauté du travail actuellement. Et je pense aussi c'est là où on va de plus en plus, où on cherche du sens dans notre et de l'engagement dans notre travail. Et en même temps, de réussir à trouver cette balance où ton travail t'apporte du sens, mais n'est pas non plus toute ta vie. Et en fait, tu peux aussi bah, prendre ce temps pour aller surfer, pour aller nager et sans te sentir, comment dire? Ouais, du coup, j'ai pas le mot. Mais enfin, sans te sentir obligé de...
Par un travail qui te convient pas, quoi.
Exactement. Donc, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je vois bien hein, que c'était pas le cas il y a quelques années. Et je pense que depuis le Covid, etc., aussi, ça s'est beaucoup développé. Et puis voilà, j'ai aussi de la chance de tomber bah, sur une boss qui comprend tout à fait, qui partage mes valeurs et qui m'autorise aussi à m'organiser comme je veux. Et aussi d'avoir cette liberté du freelance qui fait que bah, tu t'organises comme tu veux, quoi.
Je trouve que dans ce que tu racontes, on sent que à la fois il y a un désir de revenir à des choses simples, donc prendre la voile, prendre le bateau pour faire une traversée à la voile, rester connecté à toi et à ton intuition et à tes ressentis, et à la fois de piocher dans le monde moderne des choses qui sont positives et qui t'aident à soit trouver du sens, soit t'épanouir, soit trouver un certain équilibre aussi, tu vois. Tu dis, bah, en fait, je vais augmenter la mobilité douce, mais pour moi, ça ne sera pas toute ma vie parce que je vois qu'il y a certaines limites aussi. Donc, on sent que tu trouves une sorte d'équilibre un petit peu là-dedans.
Oui, bah c'est du comment dire, c'est un peu du test and learn, mais c'est pas non plus bah critiquer tout ce qu'il y a dans la société actuelle. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qu'il faut qu'on transforme, il y a des choses qui vont pas du tout même. Et en même temps, on a plein de choses incroyables qu'on a réussi à créer en tant que société humaine. Et du coup, c'est comment on arrive à utiliser les deux et surtout, bah en effet, à essayer de rester connecté, aligné et de vivre un peu de manière simple et sobre et surtout bah en soi revenir un peu à l'essentiel de ce qui nous rend heureux.
J'ai encore quelques questions pour toi. L'une d'entre elles, c'est avec les études que tu as faites et avec ton aventure et l'exploration d'écosystèmes de régénération de l'océan, qu'est-ce que tu dirais qu'on peut faire, nous, là, tu vois, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà pour avoir un impact beaucoup plus positif? Là, vous ne voyez pas, mais Louise Océane, elle se tire les muscles du visage en mode Oh my God!
C'est compliqué comme question. Je trouve que c'est la question la plus posée, c'est sûrement la question la plus difficile. Parce que déjà, il y a trois échelles d'action pour moi qui sont l'individu, les entreprises, enfin l'individu, la société civile, les entreprises et le gouvernement. Maintenant, du coup, vu qu'on s'adresse plutôt à des individus, on va prendre cette échelle-là. Et on va dire que pour moi, il y a deux, pareil, même au niveau de l'individu, en fait, il y a deux échelles. C'est-à-dire qu'il y a l'échelle un peu qui est de l'écologie extérieure, qu'on appelle, et qui est un peu tout ce que je peux mettre en place au quotidien dans mes actions, dans ma consommation, qui va faire que je vais réduire mon impact négatif sur le vivant ou qui peut justement améliorer la situation actuelle. Par rapport à l'océan, et on peut parler du coup de la consommation de poissons, qui en fait est la plus grosse, on va dire, menace aujourd'hui sur la biodiversité marine, c'est la surexploitation des espèces. Et aujourd'hui, en France, on mange environ 3 fois plus de poissons que la moyenne mondiale. Et surtout, c'est qu'on mange les mêmes poissons. C'est-à-dire qu'on mange du thon, du saumon. Ça, on va dire que ça va être les deux. Et puis après, par exemple, au Pays Basque, on mange vachement de cabillaud. Enfin, bref. Et l'idée, c'est de se renseigner un peu sur, bah déjà, diminuer sa consommation de poissons. Tout simplement. Si on veut acheter du poisson, l'acheter en circuit court, l'acheter près des pêcheurs. Et du coup, se renseigner sur bah, la saisonnalité, l'état des stocks, c'est-à-dire que consommer du poisson dont les populations sont surexploitées, bah, c'est pas ouf. Le saumon d'élevage, par exemple, c'est une catastrophe sur plein de niveaux. Et du coup, c'est essayer de se renseigner sur si je veux manger du poisson, qu'est-ce que je peux manger de manière la plus responsable et qui aura un petit peu le moins d'impact possible sur l'océan. Et puis après, ben, il y a des sujets que tu as déjà abordés dans d'autres épisodes sur la consommation au niveau des habits, de la mode en fait, de consommer beaucoup plus responsable. En fait, vouloir protéger l'océan, c'est aussi vouloir protéger toute la planète et tout le vivant. Et il y a quand même une grosse partie qui est liée aux émissions de CO2. Et du coup, c'est comment je peux limiter mon empreinte carbone dans ma façon de consommer, au niveau des habits, du transport, etc. Mais en effet, il y a aussi d'autres facteurs comme que ce soit la gestion de l'eau douce, que ce soit voilà, la consommation de poissons, etc. Donc, je ne veux pas non plus faire un podcast sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place, mais voilà, pour donner un petit peu des pistes de réflexion. Et ça, comme je disais, c'était un peu toute l'écologie extérieure. Et il y a quelque chose aussi auquel je crois fortement, qui est un peu l'écologie intérieure, l'écologie spirituelle, et qui est celle aussi de se rendre compte de ce lien qu'on a avec le vivant, avec l'océan, avec tout ce qui nous entoure. Et en fait, ben, moi, si je disais, s'il y a un geste à mettre en place, c'est d'aller nager ou d'aller faire du snorkeling et de voir les poissons, en fait, et d'aller voir ce qu'il y a près de chez nous et de, comment dire, de nourrir cet émerveillement pour le monde vivant, de nourrir cette connexion qu'on a avec ce qui nous entoure, parce que c'est uniquement comme ça qu'on peut s'intéresser à plus et essayer de mettre en place des choses plus concrètes, on va dire, dans le monde un peu physique pour le protéger. Mais du coup, ça va de pair.
Et je me réjouis trop que tu rentres pour qu'on aille faire de l'apnée toutes les deux, qu'on aille voir les poissons.
Ouais, ça serait... Oh, c'est chouette, ça. Au Port-Vieux, à Biarritz.
Ouais, ça sera pas le même décor que Tahiti, mais
Mais d'ailleurs, en parlant de ça, une fois, j'avais été au Port-Vieux, et bon, tu sais, il y a pas mal de personnes âgées, etc., qui vont faire leur bain au quotidien. Et j'ai souvent nagé au Port-Vieux. Donc, pour ceux qui ne sont pas de Biarritz, c'est une plage à Biarritz qui est très belle, avec plein de rochers, etc. Et en fait, un jour, il y avait un énorme banc de poissons en dessous de moi. Et puis, je voyais plein de monde nager la tête hors de l'eau, en fait. Et du coup, j'ai prêté mes lunettes de nage à ces deux petites dames qui nageaient. Je leur ai dit, mettez la tête sous l'eau. Et elles ont vu tous les poissons, elles étaient émerveillées, et je trouve que c'est une des plus belles choses à faire.
c'est vrai. Rapidement, Louise Océane, parle-nous un petit peu d'un de tes projets sur lesquels tu travailles en ce moment, qui est cette association pour laquelle tu travailles, Women and the Sea, c'est ça?
Woman for Sea.
Women for Sea, un projet qui va se passer en Corse, tu peux nous en parler?
Ouais, donc à la base, Women for Sea, c'est une association qui est basée à Marseille, mais qui est un peu distribuée partout en France, et en fait qui agit pour la protection du milieu marin et la valorisation des femmes qui s'engagent pour la mer. Et donc, qui regroupe une communauté de femmes et d'hommes qui souhaitent agir en fait ensemble sur plein de projets on va dire, sur ces thématiques-là. Et en mai prochain, en fait, ça fait des années qu'il y a plusieurs expéditions à la voile féminine qui sont créées. Et en mai prochain, c'est la prochaine et grosse expédition féminine qui s'appelle l'Odyssée des possibles, qui aura lieu en effet en Corse. Enfin, c'est-à-dire que ça va être 4 semaines de navigation qui vont regrouper 4 équipages de 9 femmes, on va dire de milieux complètement divers et variés, et en fait qui vont créer un équipage pluridisciplinaire. Et donc en fait, elles vont bah, forcément naviguer et passer du temps ensemble sur le bateau, mais surtout réfléchir ensemble de manière, enfin, de manière collective à comment mieux porter la voix des femmes au service de la mer et un petit peu enfin, réfléchir à des solutions à mettre en place pour justement mieux protéger la mer et mieux porter la voix des femmes. Et donc, ça va être porté jusqu'au Parlement européen, jusqu'à l'Assemblée nationale. Et voilà, ça va être un moment, on va dire, entre femmes où l'entraide, l'écoute, on va dire la sororité, la compassion, tout ça vont être en fait regroupées pour travailler ensemble à une meilleure protection de la mer.
Youhou! Et on
Donc
mettra
voilà.
le lien Instagram pour que les gens suivent ou pour que les gens aillent s'inscrire parce qu'il y a des cabines qui sont ouvertes au... Non, non.
Non, en fait, il y a eu une période d'inscription qui
OK.
était tout le mois de janvier-février. Et en fait, vu que les places sont limitées, on a fait un peu une sélection. Mais voilà, mais l'association agit à l'année, etc. Donc en fait, tout le monde peut rejoindre l'association, même en dehors de cette grosse expédition.
OK. Et on mettra le lien vers le Instagram et le site internet de l'asso dans la fenêtre de l'épisode. Et puis donc, dernièrement, enfin, finalement, c'est juste un souhait que je te souhaite. C'est que ben, tout se passe bien sur le bateau pour ta traversée dans le Pacifique, que tu rejoignes Tahiti de manière peaceful et sereine, et que tu continues à vivre tes rêves, que tu nages avec les baleines à bosse. Et je te propose qu'on fasse un autre épisode un peu plus tard, quand tu as déjà vécu ces expériences-là, pour que ça soit moi ou les auditeurs, on suive un peu le déroulé de ton rêve.
Ouais, bah écoute, merci, merci. J'ai hâte de prendre la mer. J'ai hâte de passer 3 semaines complètement déconnectée et juste reconnectée, en fait, à la mer et aux étoiles et à la lune. Donc ouais, hâte. Et puis écoute, merci. De toute façon, je te tiendrai au courant. Je partage aussi un peu mes aventures sur mon Instagram et puis avec plaisir pour faire un petit épisode catch-up.
J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, alors ça serait trop chouette si vous pouviez vous rendre sur l'application Apple Podcast pour me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. J'espère que cet épisode vous a inspiré. L'aventure, le respect, l'équilibre et plein de choses encore. Je vous dis à la semaine prochaine.